Le grand face-à-face. Thomas Negarov sur France Inter.
Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. Le fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace, chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage. Et il nous faudra être à la hauteur de l'histoire et du courage qu'elle implique.
Bonjour Gilles et Natacha.
Bonjour.
Natacha, nous avons été lâches et nous ne devons plus l'être face à Vladimir Poutine. Est-ce que c'est courageux de dire ça ou est-ce que c'est déraisonnable ?
Alors, je suis assez gênée par le vocabulaire qui se développe ces derniers temps, non seulement dans la bouche d'Emmanuel Macron, mais dans la bouche de beaucoup sur la question justement de l'abus des termes lâches, du terme munichois. C'est-à-dire que, alors je ne mets pas sur le même plan Emmanuel Macron et les commentateurs. Chez les commentateurs qui sont sur un plateau de télévision ou derrière un bureau, venir exhorter à la guerre, à quelque chose d'assez indécent et que je trouve même consternant. Chez Emmanuel Macron, il y a autre chose. On a vu une montée en puissance du vocabulaire de la part du président de la République, puisqu'il a parlé du fait qu'il fallait soutenir l'Ukraine quoi qu'il en coûte, donc en reprenant ce terme qui devient une tarte à la crème du vocabulaire politique. Il a parlé d'absence, enfin de soutien sans limite. Et il y a là quelque chose qui pose problème. D'abord parce que ce qu'on a vu dans les deux dernières semaines de la part d'Emmanuel Macron, c'est une sorte de reproche public adressé à ses alliés européens, ce qui ne me semble pas la meilleure manière de penser la riposte à Vladimir Poutine. Et on a bien vu que sous couvert, on en a parlé la semaine dernière, sous couvert d'ambiguïté stratégique, en fait, Emmanuel Macron a obligé le reste de l'Europe à sortir de l'ambiguïté stratégique, ce qui aboutit au contraire de ce qu'il prétendait vouloir faire. Et ce terme de lâcheté va dans le même sens. Qui a été lâche ? La question n'est pas d'être lâche, la question est de réfléchir aux intérêts de l'Europe, de comprendre qu'il y a eu des erreurs politiques qui ont été faites, que notamment pendant des décennies, les Européens, de diverses manières, ont affaibli leur force militaire, d'abord en ne réfléchissant jamais en termes de puissance, jamais en termes d'indépendance, et que c'est tout ça que nous payons. C'est pas une question de lâcheté, c'est une question d'idéologie. Et lui-même trouvait cette Europe-là absolument formidable. Donc maintenant, jouer le chef de guerre en usant et en abusant d'images virilistes ne me semble pas la meilleure manière de répondre, d'autant plus que ça amplifie le décalage entre les mots et les faits. C'est-à-dire que les Européens sont faibles et fragiles. Il faut en avoir conscience et il faut donc agir intelligemment en tenant compte de cela. Parce que sinon, on aboutit qu'à une espèce d'escalade verbale avec Vladimir Poutine qui se paye le luxe de menacer une fois de plus d'utiliser l'arme nucléaire, d'expliquer que la France fait un pas de plus vers la co-belligérance. C'est-à-dire qu'on lui donne l'occasion de réagir et de montrer sa force. À mon avis, ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Il faut agir au contraire avec, disons, une forme d'unité avec les Européens, donc avec une forme d'humilité de la part de la France, avec à l'esprit les questions extrêmement préoccupantes du fait que l'Ukraine, l'armée ukrainienne est dans une position difficile et risque de s'effondrer. On a publié cette semaine dans Marianne un article qui rend compte de rapports de militaires français qui sont extrêmement inquiétants. Et donc, il faut ramener les États-Unis à la table, c'est-à-dire les forcer à prendre leurs responsabilités. Et ça, les Européens ne pourront le faire que s'ils sont unis. Pas si on joue au chef de guerre en traitant les autres de lâches.
Natacha explique en gros, sans vouloir détourner votre pensée, que si on n'agit pas, c'est pas parce qu'on est lâche, mais c'est parce qu'on est faible et pas assez unis. Gilles, est-ce que c'est aussi votre point de vue ?
Alors, on a sur ce sujet de manière récurrente une divergence de sensibilité
avec,
avec Natacha, donc allons-y. Je mets à part, mais je le cite quand même, la lecture politique de ce qui se passe. Emmanuel Macron a reçu cette semaine les chefs de parti.
Oui.
Il y aura la semaine prochaine un débat à l'Assemblée nationale.
Mardi et mercredi au Sénat.
Et donc, on ne peut pas ne pas avoir aussi une lecture politique d'un événement politique et ne pas voir que Emmanuel Macron, à la veille des élections, pour le dire d'une phrase, veut polariser, notamment avec le Rassemblement national, pour bipolariser, c'est-à-dire pour faire en sorte qu'il y ait une sorte de réflexe de vote utile, comme il y en a pour l'élection présidentielle à l'occasion de ces élections. Je ferme cette parenthèse parce que l'essentiel n'est pas là. Si on est sur la question géopolitique, en fait, je pense que la divergence ou la différence de sensibilité avec Natacha, elle tient sans doute déjà à l'analyse de départ. Pour moi, il y a trois points. Le premier est que la responsabilité de Vladimir Poutine dans le déclenchement de cette guerre est écrasante. Et c'est vrai, de l'annexion de la Crimée jusqu'à l'invasion de l'Ukraine en février dernier, et je crois qu'il n'y a aucune justification qui me semble recevable. Le deuxième point, c'est que il y a aujourd'hui une menace réelle de la Russie. C'est vrai, évidemment, contre l'Ukraine, avec laquelle on partage à la fois, disons, des valeurs démocratiques et puis cette idée d'une sécurité juridique autour du respect des frontières. Mais au-delà de l'Ukraine, pour l'Europe et donc pour la France, parce que la victoire de Poutine serait comprise par lui comme l'autorisation d'aller plus loin. Ça ne viendrait en réalité que confirmer ce qu'il répète toujours, que nous, Européens, nous, Occidentaux, n'avons pas d'autre combat que notre confort matériel. Bon. Et donc, ça, c'est un élément qui est très important, au-delà même du fait que la Russie essaye déjà aujourd'hui, par ses cyberattaques, par ses actions sur les réseaux sociaux, de déstabiliser notre démocratie. Je crois que c'est vraiment nos intérêts qui sont en jeu dans cette affaire. Et puis, troisième point sur l'analyse, c'est que beaucoup, depuis 10 ans, ont fait preuve de complaisance envers la Russie de Vladimir Poutine. Certains, par fascination d'un nationalisme autoritaire comme le RN, d'autres par une sorte de réflexe pavlovien anti-américain comme LFI, d'autres encore, y compris Emmanuel Macron au début, par une sorte d'hubris, pensant qu'ils allaient domestiquer Vladimir Poutine. Je pense que c'était à chaque fois une fausse route. Donc, si on partage, on peut ne pas partager ces trois points-là. La question est, dans cette situation, que fait-on ? Il y a d'abord le concret. Et l'essentiel est là, c'est comment on fait pour aider davantage, pour aider plus vite, pour tenir nos promesses, les Ukrainiens. Ça, c'est des questions à la fois d'ordre financier, d'ordre industriel, et c'est là où l'Europe pêche. Et puis, il y a une deuxième dimension, et c'est là-dessus que se noue le débat ces derniers jours, qui est, disons, une dimension plus de guerre psychologique. Est-ce qu'il faut durcir le ton, avoir une stratégie moins lisible ? Hein, c'est cette fameuse formule d'ambiguïté stratégique qui est celle, en réalité, que nous avons pour la dissuasion nucléaire. Je pense que l'idée se défend. Après, on peut avoir des désaccords, et je les avais exprimés la semaine dernière, sur la manière, sur l'exécution, sur la manière dont Emmanuel Macron le fait. Je pense que le moment était mal choisi avec les chefs d'État et de gouvernement, que les mots n'étaient pas nécessairement bien calibrés. Mais être moins lisible dans cette situation, ça ne me semble pas complètement idiot. Alors, est-ce que c'est inquiétant ? Évidemment que ça peut être inquiétant dès lors que il y a de l'incertitude. La question, c'est est-ce que c'est la situation qui est inquiétante ? C'est oui, c'est la situation qui est inquiétante et pas les déclarations. Et la vraie question, c'est est-ce que c'est plus efficace ? Eh bien, peut-être.
Natacha, dans cette situation inquiétante, est-ce qu'il faut jouer de l'ambiguïté stratégique dont Gilles parlait à l'instant, ou est-ce qu'il faut être plus apaisant avec Vladimir Poutine ?
Alors, je vais suivre point par point les éléments qu'a listé Gilles. Premier point, Gilles a parlé de la dimension politique de la chose. Je me l'étais interdit parce que je trouve ça absolument abject, en fait, d'utiliser une situation aussi grave pour une campagne électorale. Et la phrase...
Rien ne dit qu'il le fait, ça c'est votre
analyse. La phrase des conseillers... Ben, je ne fais que reprendre ce que disait Gilles, qui lui ne l'a pas exclu. Moi, je m'étais interdit d'envisager même cela. Parce que je trouverais ça inacceptable. En revanche, et c'est pour ça que je ne veux pas croire qu'Emmanuel Macron soit dans cette stratégie-là. En revanche, il y a autour de lui des gens qui le sont et qui l'affichent. Certains de ses conseillers ont commenté la rencontre en disant « on verra qui est pour l'Ukraine et qui est pour la Russie », ce qui est affligeant, en fait, comme façon de résumer, comme si c'était à ça que se résumaient les choses. Pour l'Ukraine ou pour la Russie. Comme s'il n'y avait pas différentes manières d'être pour l'Ukraine et que c'est le but des discussions avec les oppositions. C'est ça, en fait. Bon, bref, ça, c'est ce point-là, je l'écarte. Responsabilité écrasante de Vladimir Poutine, nous sommes entièrement d'accord. C'est-à-dire que j'estime qu'à partir du moment où il y a une agression contre un pays et un non-respect du droit international, il y a une responsabilité qui, j'allais dire, efface l'histoire. Mais pour autant, cette histoire existe et on ne peut pas la nier. C'est-à-dire que si on veut raconter l'histoire de 1991 à 2014, il faut la raconter en tenant compte de l'ensemble des éléments. Et je pense que, par exemple, la façon dont Brzezinski racontait cette histoire-là, c'est-à-dire la stratégie américaine face à l'effondrement de l'URSS et face à une Russie déliquescente, me semble importante à comprendre. Mais de fait, à partir du moment où il y a agression d'un voisin, il n'y a qu'une seule responsabilité. Nous sommes d'accord, donc il est hors de question d'exonérer Vladimir Poutine.
Dont acte.
Il y a eu, de la part de certains en France, une complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine. Thierry Mariani en est l'incarnation absolue. Il y a des gens, oui, à droite, on se souvient de propos d'Éric Zemmour ou de Marion Maréchal, il y a des gens qui sont fascinés par la force virile et brutale. Ça, là aussi, nous sommes d'accord. En revanche, je pense que quand un Nicolas Sarkozy, par exemple, essayait avec Angela Merkel de mettre en avant ce qu'il appelait une architecture de sécurité en Europe, ce n'était pas de la complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine, c'était une bonne compréhension des intérêts de l'Europe qui ne sont pas les mêmes que ceux des Américains, parce que nous, Européens, nous sommes voisins de la Russie. Et que on a beau ne pas aimer le régime de Vladimir Poutine et même s'en méfier terriblement, il faut tenir compte de la géographie. Et il est très facile de la part des Américains de construire une vision en noir et blanc avec le camp du bien et l'axe du mal. Ça ne leur coûte pas grand-chose à distance. Nous, nous sommes obligés justement de réfléchir en termes de, on va dire, de protection de nos intérêts. Et c'est, je pense, ce que les Européens n'ont pas réussi à faire du fait de la politique américaine.
C'est pas plutôt l'inverse. On dit pas parfois que on a été trop dans cette réelle politique, on a trop lié d'intérêts économiques avec la Russie qui fait qu'on a eu du mal à s'opposer à Poutine après l'attaque de l'Ukraine.
On peut en débattre. Je pense conjointement que l'Allemagne s'est mise dans les mains de la Russie. Et à l'époque, tout le monde trouvait le modèle allemand absolument génial, nous expliquait que c'était formidable. Et bien peu considérait que cette espèce de triangle qu'avaient construit Gerhard Schröder et Angela Merkel, c'est-à-dire le gaz russe, le parapluie américain et les exportations vers la Chine, était quelque chose d'assez malsain et qui ne servait pas les intérêts européens. Voilà, tout le monde trouvait ça génial et tout à coup, on se retourne. Donc moi, je pense que cette dépendance était malsaine parce que toute forme de dépendance est malsaine, mais qu'en revanche, réfléchir en termes d'intérêts européens et en considérant qu'ils ne sont pas exactement les mêmes que les intérêts américains, c'est une nécessité. Concrètement, où nous en sommes aujourd'hui ? Concrètement, nous en sommes à un point où, en effet, sur le front, ça se passe mal. Et il faut absolument que les Européens fournissent les armes dont les Ukrainiens ont besoin. Pourquoi ? Parce qu'on ne fera pas, on ne terminera pas cette guerre sans établir un rapport de force qui permette d'aborder cette fin dans de bonnes conditions. Donc les Européens doivent évidemment aider l'Ukraine et l'aider en tenant leurs promesses, ce qu'ils ne font pas. Derrière, en revanche, on ne va pas aller jusqu'à Moscou pour détruire Vladimir Poutine. Donc, il faudra bien, à un moment, discuter. Il n'y aura pas de fin militaire.
J'entends votre divergence en géopolitique. On distingue les libéraux, ceux qui considèrent que, finalement, les relations internationales peuvent s'apaiser, qu'il peut y avoir derrière chaque adversaire un allié potentiel, et les réalistes, qui considèrent davantage que derrière chaque partenaire, il y a potentiellement un ennemi. Est-ce que dans ce débat entre vous deux, Natacha est davantage réaliste et Gilles davantage libéral, ou bien c'est l'inverse qui se joue entre vous deux? Qui est le réaliste là?
Ouais, mais c'est évidemment que c'est ça tout le débat. C'est-à-dire que tout le monde est persuadé d'être le réaliste. Bon, et donc, si on avait la réponse, les choses seraient évidemment beaucoup plus simples.
Mais comment répondez-vous à cette question de réel politique que pose Natacha, et notamment sur le fait que nous n'avons pas les mêmes enjeux que les Américains? Or, selon elle, on est un peu aveuglé, titre du livre de Sylvie Kaufmann, par ces enjeux partagés.
Nous n'avons pas les mêmes enjeux que les Américains. Il faut reconnaître que c'est grâce aux Américains, principalement, que l'Ukraine tient aujourd'hui, que c'est grâce à la présence américaine, à la demande de l'Ukraine, que les Américains, à la différence des Européens, ont vu ce qui était en train de se passer et l'invasion qui était en train de se préparer, et que c'est grâce à ça que les Ukrainiens ont pu aussi réagir et réagir aussi rapidement. Donc, je pense qu'il faut être balancé quand on parle des États-Unis. Après, on n'a évidemment pas la même position géographique, on n'a pas exactement les mêmes intérêts que les Européens et vocation à bâtir une architecture stratégique, y compris avec la Russie, évidemment oui, mais lorsque je parlais de ces responsabilités passées, notamment de Nicolas Sarkozy, c'est pas à ça que je faisais allusion, c'était pour bâtir une architecture de sécurité avec les Russes, on n'est pas obligé de leur vendre des armes. Or, c'est ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy, et je me souviens des réactions qui ont été les siennes lorsque François Hollande a, après l'invasion en Ukraine, arrêté la vente des Mistral à la Russie, où Nicolas Sarkozy s'était indigné. Donc c'est ce
pas
à quoi...
que Nicolas Sarkozy, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, toute la classe politique s'était levée contre cette décision idiote de la part de François Hollande, disait-on à l'époque.
Oui, mais j'avais déjà évoqué la complaisance pour différentes raisons, et de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Là, il y avait en plus celle de Nicolas Sarkozy. Après, je termine par là, il n'y aura pas de victoire totale de l'un des camps, et personne ne dit, personne n'envisage même qu'il faille aller jusqu'à Moscou. La question est celle du rapport de force. Là-dedans, il y a les éléments concrets et il y a aussi les éléments de guerre psychologique que j'évoquais.
Natacha, vous voulez répondre?
D'abord, gardons-nous de dire que parce que la situation est telle aujourd'hui, elle était la même en 2014, en 2008, en 2000, quand Vladimir Poutine est arrivé. C'est-à-dire que, justement, il y a une évolution de la situation. Ça, et je pense qu'il faut en tenir compte. De même que depuis le déclenchement de la guerre, il y a une évolution de la situation. Et dire qu'aujourd'hui, on doit envoyer des avions, par exemple, ne signifie pas qu'il aurait fallu le faire dès le début. Oui. Les choses sont plus complexes que ça.
Emmanuel Macron l'a dit, d'ailleurs.
Voilà. Deuxième point, je pense qu'il y a un élément important qui est ce que j'ai appelé la responsabilité historique des États-Unis. C'est-à-dire que, oui, les États-Unis ont aidé l'Ukraine, c'est bien le moins. Ils ont poussé depuis des années pour que l'Ukraine intègre le camp dit occidental et l'OTAN. C'était même le point de désaccord avec Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Et les États-Unis, aujourd'hui, sont en train de se désengager, le risque étant pour les Européens, en gros, de payer la facture militaire, la facture économique, et donc de se retrouver, en effet, obligés de suppléer les États-Unis, ce qui serait profondément grave, parce que ça amputerait l'avenir des Européens d'une façon tragique.
Le grand face-à-face, le duel.
C'est la première audience de cette chambre spéciale dédiée aux contentieux émergents autour de la responsabilité des entreprises. Nous avons bien conscience de la grande attente des praticiens et des parties prenantes et du besoin de clarifier la jurisprudence autour de la loi sur le devoir de vigilance. C'est pas moi qui parle, c'est Marie-Christine Hébard-Pageot, présidente de la chambre spéciale dédiée à la responsabilité sociale des entreprises. C'était le 5 mars. Total Energy, EDF et Suez, assignés par des associations et des collectivités pour non-respect de leurs obligations en matière de vigilance sur les droits humains et environnementaux. C'est nouveau, Gilles, mais est-ce que c'est révolutionnaire ?
Assez. C'est assez révolutionnaire. Peut-être pour comprendre de quoi il s'agit, il faut repartir d'un peu plus loin. On a, depuis une trentaine d'années, une évolution du capitalisme contemporain dans lequel on a une mondialisation de plus en plus forte de la chaîne des valeurs, de la chaîne de valeur, une concentration des grandes multinationales sur ce qu'on appelle leur core business, sur leur cœur de métier, et donc le développement, et c'est ça l'élément très important, la multiplication de la sous-traitance et des filiales. Le problème, c'est que dans l'application du droit, on est souvent exigeant avec les groupes et peu regardant avec ce qui se passe après sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et il y a eu un événement symptomatique et dramatique de ça, il y a une dizaine d'années, ce qu'on appelle le Rana Plaza, où au Bangladesh, il y a plus de 1000 ouvriers du textile, travailleurs sous-traitants des grandes entreprises de la mode, qui sont morts dans une explosion. Et la solution qui a été trouvée est une solution française. C'est pas toujours le cas. L'initiative a été une initiative française. C'est une des dernières lois qui a été adoptée à la fin du quinquennat de François Hollande, à l'initiative d'un député qui est un des grands députés français, qui est un agriculteur, un intellectuel et un humaniste qui s'appelle Dominique Potier, qui est un député de Meurthe-et-Moselle, qui est un député socialiste, et qui, avec des associations, des intellectuels, a pensé cette loi sur le devoir de vigilance. C'est quoi, de manière très simple, la loi sur le devoir de vigilance? C'est que les multinationales ont le devoir d'avoir des plans de prévention sur les risques humains et les risques environnementaux sur la totalité de leur chaîne de valeur. C'est-à-dire non seulement sur ce qu'elles font, mais sur ce que font toute la chaîne de leurs sous-traitants. Et c'est ce en quoi le texte est révolutionnaire. Alors on peut trouver que les modalités
pas facile quand même.
Devraient aller plus loin. Évidemment que c'est pas difficile, c'est un changement, une domestication potentielle de la mondialisation, et c'est ce en quoi c'est un texte qui peut paraître comme une petite réforme, mais qui est une vraie révolution. Je m'arrête là, mais on peut après quand même dire un mot à la fois de son application concrète, c'est le procès que vous évoquez aujourd'hui, sur lequel l'élément le plus important, au-delà de ce qui va se passer sur les décisions elles-mêmes, c'est le fait qu'il a été décidé de créer une chambre spéciale de la Cour d'appel de Paris qui examinera tous ces contentieux. Et puis l'autre élément, il faudra quand même qu'on en dise un mot, c'est qu'il y a une directive européenne qui a fini par accoucher avec une extrême difficulté, et tout se joue dans les 10 jours qui viennent. Il est 00:01 et il y a un risque qu'elle ne soit pas adoptée ou qu'elle soit profondément dénaturée.
À vous écouter, c'est quelque chose de très important. Et Natacha, souvent on parle du traitement médiatique des choses. On en a très 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 peu parlé.
Oui, en effet. Alors je rejoins Gilles sur la description qu'il a faite de ce qu'est cette loi, de la façon dont elle a été portée et de l'intérêt qu'elle a. Après, si on veut aller plus précisément sur le procès qui a lieu et qui touche Total, EDF Mexique, Suez, la remarque que je me suis faite, c'est que je pense qu'il est très bon que les multinationales commence enfin à rendre des comptes et à rendre des comptes sur ce qu'elles font dans des pays où les gens n'ont pas forcément les moyens de s'opposer. Je regretterais peut-être que cela touche essentiellement des questions de climat, d'action sur le climat, et pas assez des questions
de droits humains.
Total a une autre affaire qui est celle au Yémen, où là, il y a destruction de nappes phréatiques et donc fragilisation des populations locales. Gilles citait le Rana Plaza, c'est-à-dire une exploitation. Je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir aller. Et sur la question européenne, en revanche, oui, l'inquiétude est grande parce que la directive a été petit à petit vidée de son sens. Et tant que l'Europe n'agira pas et n'agira pas en tenant compte aussi du fait que c'est très bien de réguler sur son sol, mais si on importe à côté de pays qui ne respectent rien, ça ne marche pas.
C'est intéressant parce que souvent, Natacha, je vous taquine un peu, vous critiquez l'extraterritorialité, parfois, elle a du bon.
Le grand face-à-face, le duel.
Un jeune interrogé sur 5 ne reconnaît pas une courgette en photo, y voyant un concombre ou une aubergine. Et les 15-24 ans, sans grande surprise, consomment aussi plus de plats transformés, 44% plusieurs fois par semaine, contre 23% dans l'ensemble de la population. Ils fréquentent également plus les chaînes de restauration rapide, 59% y mangent au moins une fois par mois. L'étude montre aussi que malgré une très forte inflation, le volume de vente des chips et des pâtes à tartiner n'a pas baissé. En revanche, les jeunes consomment moins de fruits et de légumes frais, invoquant des produits trop chers et trop difficiles à préparer.
C'est l'heure de déjeuner. On vient d'écouter Agnès Soubiran qui revenait ce matin sur France Inter sur les résultats plutôt inquiétants de l'étude Harris Interactive du jour. Natacha, est-ce que ça vous rend pessimiste sur l'avenir de voir les jeunes à ce point déconnectés de l'alimentation ?
Alors, c'est un enjeu essentiel. Et vous vous souvenez, quand la ministre de la Consommation, Olivia Grégoire, interrogée sur l'inflation, avait évoqué le fait qu'il faudrait des cours de cuisine à l'école, elle s'était fait conspuer et moquer. Je pense qu'elle avait parfaitement raison. Et même plus largement, c'est une culture alimentaire et agricole qui doit être mise en place. Ce sondage est extrêmement drôle. Je passerai sur les...
Drôle ?
Alors, non, drôle. D'abord parce que un jeune sur cinq qui ne reconnaît pas une courgette, je craignais que ce ne fût pire.
Oui, moi, ça m'a plutôt rassuré, en fait.
Oui, exactement. Alors après, il y a des questions ouvertes, questions fermées. C'est-à-dire, si on ne leur avait pas donné, c'était un questionnaire à choix multiple.
Ah oui. Alors, c'est une banane ou un concombre ?
S'il n'y avait pas eu le choix multiple, je ne sais pas si ça aurait été bien. Ce qui m'a fait extrêmement rire, c'est le fait que quand on regarde dans les détails... Alors, c'est un jeune sur cinq, donc 20%. C'est 13% en zone rurale, alors que c'est 11% en population nationale. Ça veut dire qu'en zone rurale, on reconnaît moins une courgette.
Ah ouais.
Ce sont les populations les plus riches qui sont à 14%. Donc en fait, quand on est très riche, on a tendance à manger plus de plats transformés et à moins identifier les légumes. Et alors, ce sont les LFI et les LR qui reconnaissent le moins une courgette. Bon, je passe
alors
là-dessus. La question de l'éducation au goût me semble essentielle. Et c'est un travail qu'il va falloir mener parce que ça fait partie des compétences humaines et de futurs citoyens.
Un mot, Gilles, qui doit le mener ce travail ? Parce qu'Olivia Grégoire a lancé Éduquer pour mieux manger, c'est à l'État ou c'est aux parents finalement d'assurer ça ?
Non, je pense que c'est les deux. La question, c'est quelle est la lecture qu'on doit avoir d'un tel sondage ? Il y a une première lecture sous l'angle de la décomposition, de la nostalgie, du déclin, tout fout le camp. J'interrogeais, vous vous souvenez, il y a 15 jours, Éric Orsenna, Julien de Normandie, pour savoir si l'exception alimentaire française perdurait. Il disait, il n'y a plus rien. Et c'est les 20% de jeunes qui ne reconnaissent pas la courgette. Moi, je crois qu'il y a une seconde lecture et qui est plutôt celle dans laquelle je m'inscris, c'est qu'on a une fragmentation et une mutation très profonde de notre rapport à l'alimentation. D'abord, on continue à être le pays qui passe le plus de temps à manger et à boire dans le monde. Avec des différences qui sont absolument considérables. C'est plus de deux fois plus qu'aux États-Unis. C'est substantiellement 50% de plus qu'en Inde ou qu'au Royaume-Uni. C'est beaucoup plus qu'en Chine,
vous dites
au Japon.
Le temps à manger ou le temps à manger ensemble ?
Le temps à manger. Déjà,
d'accord. Ah ouais, donc peut-être on mâche plus que les Américains.
Mais
alors.
Beaucoup le temps à manger à table et le temps à manger à table ensemble. Donc, tout ne se défait pas. Deuxième élément, on a vécu une révolution silencieuse en 50 ans. Il y a un chiffre qui l'illustre bien, alors que c'était hier la journée mondiale des femmes. Tout le monde cuisine.
Des droits des femmes.
Des droits des femmes. Quand on dit tout le monde cuisine, ça veut dire que les hommes cuisine aussi, c'est un changement. Alors, on n'a pas les proportions exactes du temps passé par les uns et par les autres. Troisièmement, on vit une mutation profonde, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler une transition alimentaire, comme il y a une transition écologique, où il y a une partie de la population pour laquelle la préoccupation d'une alimentation saine et durable est beaucoup plus forte qu'auparavant. Et on a publié, la Fondation Jean-Jaurès a publié il y a un an un rapport qui était absolument remarquable de Guéna Elgo, qui est la directrice de l'OPSOCO, de l'Observatoire de la Consommation, qui s'appelle La France à table, dans lequel, à partir d'une enquête, était dressée une typologie de notre rapport à l'alimentation. Et on voyait qu'il y avait, en gros, 20% des Français qui se tenaient à l'écart, souvent pour des raisons sociales de cette transition, qui avaient un gros tiers qui en était largement indifférent, et puis près d'une moitié qui, sous une forme différente, était engagée. Et donc, il se passe des choses et qui ne sont pas que négatives.
Allez, un mot, Natacha, vous vouliez absolument réagir.
L'obésité progresse parce que les aliments ultra transformés sont de plus en plus consommés. Éduquer la jeunesse, c'est la rendre libre vis-à-vis de l'industrie.